Cependant, Jacques ne dormait pas, ainsi que Marthe le supposait. Il avait entendu la conversation, et singulièrement intéressé par le sujet, il s'était dressé sur sa paillasse, prêtant l'oreille aux paroles, et aspirant à plein poumon le fumet odorant qui s'échappait des flancs arrondis de la soupière, et de ceux non moins dodus de l'oie. Le conseil qu'avait donné Jeanne ne lui plaisait guère. Il se mit à genoux et se signa avec dévotion. « Mon Dieu, dit-il, d'une voix basse et dolente, faites que ma mère se laisse toucher par son amour pour moi et que je puisse manger aussi. Je lui ai causé bien des peines, mais dès à présent, je prends la résolution de me corriger. C'est si affreux d'entendre dire à sa mère qu'elle va mourir. Oui, je vous en supplie, mon Dieu. Faites qu'elle pense à moi pour souper. Cela presse bien, vous devez l'entendre. » Les cris sourds de l'estomac du petit malheureux ajoutaient à sa prière une relative mineure fort plaintive. « Vous devez voir du ciel que je suis très malheureux. Vous daignerez m'exaucer, vous qui n'abandonnez aucune de vos créatures. » L'enfant, après cette prière que la faim et le repentir rendaient doublement fervente, s'étendit de nouveau, écoutant avec anxiété les moindres bruits qui venaient de la mansarde. « Je suis perdu, pensa-t-il après un quart d'heure d'attente. Voici mes sœurs couchées, et ma mère ne vient pas. Vieux père Rondeau, va. Et cette vieille Jeanne qui dit qu'elle-même, belle tendresse que celle qui fait mourir les gens de faim, elles ont tout mangé, tout dévoré, sans même me laisser quelques miettes, sans même me laisser voir les plats. On dit que je suis un paresseux, un vagabond. Eh bien, je préfère de beaucoup être paresseux et vagabond que d'agir ainsi. Oh mon Dieu, que j'ai faim. Mon Dieu, ça sentait si bon. Un sanglot s'échappa de la poitrine oppressée du pauvre petit et alla frapper droit au cœur de la mère, qui vint aussitôt à lui. « Jacques, tu pleures ?» dit-elle en s'agenouillant près de sa misérable couche et en lui passant les mains sur le visage pour chercher à s'en convaincre. Mais l'enfant était fier, il faisait semblant de ronfler et s'en acquittait à merveille. « Dors-tu véritablement, Jacques ?» poursuivit Marthe, qui avait du mal à se laisser prendre, sentant ses doigts humides. « Je crois que oui, mère, répondit-il enfin, en s'étirant comme si on l'avait tiré d'un profond sommeil, puisque je rêve que je mange. « Non, mon garçon, tu ne rêves point, ou plutôt tu vas faire tout éveillé un véritable et beau rêve. Tiens, voici ta part d'un excellent souper que Jeanne Rondeau vient de me donner pour toi. Une part aussi pour moi ?» fit Jacques en rougissant, jusqu'à la racine des cheveux de la certitude où il était que la pauvre veuve mentait pour lui. « Puisque tu m'y forces, il faut bien que je t'avoue que ce n'était pas précisément la volonté de Jeanne. Elle trouve avec raison que tu n'es pas ce que tu devrais être. » et que c'est bien mal à toi de ne pas accepter le sort que son brave homme de mari voudrait te faire. Tu serais pourtant si heureux, mon enfant. Je ne te parle pas de moi, je suis ta mère. Je te pardonne en te donnant quitte du bonheur que tu pourrais me donner. Mais le monde est sévère, crois-le. Bientôt, on dira de toi en te voyant jouer sans cesse dans les carrefours. Voilà un mauvais fils qui plus tard sera un mauvais citoyen et un mauvais père. Il ne sait pas gagner le pain qu'il mange. Et bien d'autres choses encore, qui me feront un mal affreux, si je puis encore les entendre. Moi, vois-tu, je ne suis qu'une femme faible et malade, et pourtant, je me serais attelé à un tonneau, comme une bête de somme, plutôt que de voir pleurer ma mère. Oh, assez, pardon, pardon, s'écria Jacques, qui cacha convulsivement sa tête bouclée sur le sein de Marthe. Oh, pardon, jamais à l'avenir tu n'auras à rougir de ton fils, je te le promets. « Moi, un mauvais fils, continua-t-il en pleurant, moi qui t'aime tant. Allons, je crois à ton repentir et à ta promesse, mon enfant. Tu seras comme ton père, un digne homme, un honnête ouvrier, et surtout un bon chrétien. Essuie tes yeux, mange, et espérons en Dieu, cet appui des veuves et des orphelins. » Dire que Jacques dormit paisiblement à la suite de cette conversation serait douter de la bonté de son cœur. Il resta bien éveillé, au contraire. réfléchissant très sérieusement. L'idée du mépris que les hommes auraient pour lui s'il grandissait dans ses déplorables habitudes lui causait une douleur presque aussi vive que la mort de son père, tant son âme était fière, beaucoup plus que la position infime de ses parents pouvait le laisser supposer. À propos de quoi, Madame Rondeau disait naïvement qu'il avait l'air d'un petit roi en habit de mendiant. Aussi, à peine une légère lueur eut-elle pénétré dans l'humble mansarde, qu'il s'habilla à la hâte le plus proprement qu'il put, et, prenant un air sérieux et décidé, il descendit dans la rue et alla s'asseoir sur une borne à côté de l'échoppe de Maître Rondeau. Le laborieux ouvrier ne se fit pas attendre longtemps. « Quoi ? » s'écria-t-il avec un air de joie dans le regard en apercevant son petit ami. « Quoi ? C'est toi, Jacques ? » ?»« Oui, moi-même, Monsieur Rondeau, qui viens vous prier de me pardonner mes sottises et de vouloir bien m'apprendre votre état, comme vous me le proposiez hier au soir et tant d'autres fois encore. » « Bien, bien, viens m'embrasser, petit, » répondit le père Rondeau, visiblement ému de savoir le pauvre enfant, condamné si jeune à une vie de dur labeur. Sentiment de pitié pour des souffrances qui avaient été les siennes, et qu'il renfermait soigneusement au fond de son âme, dans la crâne des farouches Jacques, que la divine providence destinait, à peine à sortir de l'enfance, à devenir le chef d'une famille nombreuse. Être chef, quand on est pauvre, c'est s'entendre dire « travail, travail sans relâche, donne-nous le pain de chaque jour, le feu et les vêtements pour qui font braver l'hiver et ses rigueurs, arrose le sol de la sueur de ton front, sois malade, brisé, meurs à la peine, qu'importe, il nous faut vivre, nous. » Voilà ce que pensait le savetier en posant ses lèvres sur les joues un peu pâles de Jacques, et en lui répétant « Ma vieille Jeanne me l'avait bien dit, mon garçon, que tu redeviendrais à de meilleurs sentiments. À présent, pourvu que cela dure, je lui permettrai de te gâter tout à son aise. » Jacques s'installa auprès de son patron, l'air joyeux, mais le cœur un peu triste, malgré la bonté du maître Rondeau et les anecdotes qu'il lui racontait à chaque instant. Les premiers jours furent pénibles. Lorsque le jeune apprenti, voyant passer quelques bandes d'écoliers espiègles et joueurs, le nez au vent, le sourire sur les lèvres, de gros soupirs s'échappaient de sa poitrine. Souvent, il laissait tomber son haleine, s'embarbouiller de poids les mains et le visage, et finissait toujours par siffler un peu plus fort que de coutume. Ce que voyant Maître Rondeau, il lui disait bien vite, « Jacques, voici une chaussure terminée. Veux-tu la rapporter à la pratique ?»« Oh, que nenni, père Rondeau, oh, que nenni. Les gens me démangent trop, et une fois en route, je ne suis pas certain de pouvoir m'arrêter. » Lorsque j'aurai plus d'emprise sur moi, à la bonne heure, mais à présent je reste, et je fais bien. » Sa résolution, à cet égard, était si fermement prise que pendant 2 mois au moins, il ne se permit un peu d'exercice que le soir ou le dimanche. Et même, comme c'était le seul jour où il pouvait jouir de la société de sa mère et de ses sœurs, préférait-il rester en famille ou les accompagner dans quelques courtes promenades après les offices. Car la veuve de Pierre eût préféré de beaucoup passer la nuit à blanchir et raccommoder les hardes de ses enfants que de violer le saint jour du dimanche. Madame Rondeau, qu'il aimait de plus en plus, lui avait fait construire une petite échoppe à côté de celle de son mari. Bientôt, l'élève surpassa le maître. L'activité dévorante qui naguère le poussait au jeu, aux courses désordonnées à travers Paris, s'était changé en une merveilleuse adresse. Puis Jacques était si beau, avec une brune chevelure retombant en boucle sur le col de sa chemise de toile bien blanche. Son regard était à la fois si malin et si candide, sa conversation si pleine d'entrain et de gaieté, qu'on s'arrêtait volontiers pour admirer et écouter le petit cordonnier envieux. L'ouvrage abondait. Il n'y avait pas une bonne maison dans le quartier où il n'y eût quelques pratiques. Il recevait de bons pourboires qu'il allait aussitôt porter à sa mère, dont l'aisance augmentait ainsi chaque jour. Les nouvelles connaissances de son fils lui avaient procuré des protecteurs qui la faisaient travailler autant et plus qu'elle ne le pouvait. Ses deux filles aînées étaient déjà en apprentissage. L'une chez une habile ouvrière en robe, l'autre chez une lingère. « Eh bien, garçon, disait parfois Maître Rondeau à Jacques, en lui faisant comparer leur position présente à celle d'autrefois. « Eh bien, n'avais-je pas raison de te répéter le vieil adage ? Aide-toi, le ciel t'aidera. »